L'Afrique subit de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. Perte de la biodiversité, sécheresse, baisse des rendements agricoles, érosion côtière, tous les voyants sont au rouge. Pourtant, à l'échelle mondiale, notre continent n'est responsable que de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Les questions liées à l'environnement sont devenues à la fois une urgence climatique et sociale. Alors, dans votre podcast Green Africa, nous allons essayer de mieux saisir les enjeux du changement climatique et entrevoir des solutions. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Green Africa. Notre continent est déjà plus que malmené par le réchauffement climatique. Alors, une mauvaise gestion des déchets serait plus qu'une bombe sanitaire, un désastre écologique. Les villes africaines n'ont pas donc intérêt à devenir des décharges à ciel ouvert. Comment en finir avec la mauvaise gestion des déchets? Quel est le rôle du citoyen et des pouvoirs publics dans cette lutte contre l'insalubrité? Dans la première partie de cet épisode, nous tenterons d'aborder toutes ces questions avec notre invité, Edem Koupemassi, président du programme des Nations Unies pour l'environnement dans le cadre du Togo Mune 2022. Et puis, dans la deuxième partie de ce podcast, nous irons en Côte d'Ivoire. Sur place, nous allons voir comment fonctionne Digital Smart Trash, une poubelle connectée qui facilite le tri sélectif des déchets. Edem Koupemassi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle aussi que vous êtes le directeur du Centre de Conception et d'Innovation Technologique. Bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Alors, Edem Koupemassi, aujourd'hui, nous parlons d'une question cruciale, celle qui concerne la gestion des déchets en Afrique. En 2018, un rapport de la Banque mondiale estimait que notre continent devrait produire 3 fois plus de déchets à l'horizon 2050. Est-ce que cela ne vous inquiète pas si on sait que 69% de ces déchets sont souvent déversés à ciel ouvert?
Effectivement, c'est un sujet très inquiétant, surtout que la jeunesse n'est pas très sensibilisée à ce propos. Et chaque jeune, selon moi, s'il y a un manque de sensibilisation réellement sur les côtés de gestion des déchets, le problème n'aura qu'à perdurer. Mais quand on sensibilise la population parfaitement sur le côté de gestion des déchets, je ne pense pas qu'on aura encore ce souci. Une fois que les citoyens lambda se disent « quand je jette le déchet là à ciel ouvert, je n'en vois pas d'inconvénient », alors qu'il y a un inconvénient que lui ne sait pas, le problème n'aura qu'à perdurer. Donc, l'essentiel maintenant, selon moi, c'est la sensibilisation de la population sur le côté de l'ampleur de la mauvaise gestion des déchets.
D'accord, nous aurons l'occasion de revenir largement sur le rôle du citoyen, voilà, pour faire face à cette insalubrité. Mais parfois, si on se promène dans certaines villes du continent, Edem Koupemassi, on a comme l'impression que les ordures ne dérangent plus, qu'ils font partie du décor. Comment expliquer cette situation?
Oui, comme je l'ai dit dans ma précédente intervention, à mon humble avis, l'explication de cette situation, c'est que ceux qui le déposent déjà à ciel ouvert ne savent vraiment pas que le dépôt à ciel ouvert là cause normalement une conséquence néfaste sur la mère nature que nous avons. Donc, ils ne peuvent que le faire à chaque bout de champ. Mais quand même, il y a certains aussi qui ne le font pas parce qu'ils ont été, entre autres, sensibilisés à ce propos.
D'accord. Pourtant, souvent, du côté des pouvoirs publics, on sort le chéquier, on déroule des programmes, mais on peine à renouer avec la salubrité. Comment expliquer aujourd'hui l'inefficacité qui entoure souvent ces plans et programmes lancés par les autorités étatiques?
Oui. Pour ces programmes lancés par les autorités étatiques, je dois dire le manque de renouvellement de ces programmes est, selon moi, un problème de travail en symbiose, un travail collectif avec les ONG de la place, les organisations et les associations de la place qui luttent déjà pour la protection de l'environnement et pour l'atteinte de l'ODD majeur 7 et 13. Donc, les organisations étatiques doivent normalement se rapprocher de ces associations-là qui militent dans la même cause, histoire de travailler ensemble. Et quand nous sommes ensemble sur le même sujet, nous avons plus de chances d'aborder une grande population que d'aborder normalement juste à travers une seule association. Nous ne pourrions pas toucher tout le monde là. Donc, il nous faut travailler en symbiose, il nous faut travailler en nous réorganisant et en regroupant ces associations-là qui militent pour cette cause environnementale.
Excellent. Et comment gérer aujourd'hui de manière efficace la gestion des déchets en Afrique, selon vous?
Selon moi, déjà, pour ce que nous avions vu à commencer, dans le programme des Nations Unies pour l'environnement dans le cadre du Togo Mune 2022, et aussi dans le cadre de l'ONG Jeunesse CDAO, en collaboration avec des universités privées de la place comme l'ESI Global Success, nous avions décidé de faire la collecte des déchets, trouver un temps de sensibilisation et sensibiliser la population pour aller directement à la collecte et les tri des déchets qui traînent dans les rues. Et ces déchets-là seront normalement, on va les redonner une nouvelle vie. Redonner une nouvelle vie en quel sens? Transformer ces déchets en granulats et les utiliser maintenant pour la fabrication d'autres choses. Transformer les déchets, les regrouper en catégories de déchets parce que nous savons que chaque plastique est selon ses catégories et chaque métaux est selon ses catégories. Donc les transformer et l'utiliser et les redonner une nouvelle vie. Et si on ne peut pas les redonner une nouvelle vie à nous, trouver des organisations qui collectent maintenant ces déchets-là pour les redonner une nouvelle vie.
Et est-ce que vous êtes, disons, souvent accompagné dans cette mission par l'État, par les pouvoirs publics?
Pour le moment, je dirais non, nous n'évoluons que sur nos propres ailes. Donc, on n'est quand même pas accompagné. Mais nous travaillons avec les ONG comme Eco-Citizen Day et l'ESI Global Success à ce propos.
Est-ce que vous ne trouvez pas cela, disons, dommage, déplorable? Vous êtes là, vous donnez des solutions. L'État également tente d'apporter des solutions, mais les résultats, voilà, ne sont pas du tout à la hauteur des attentes. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'il serait primordial pour l'État, pour les pouvoirs publics, de vous donner un coup de main?
Effectivement, je le pense aussi, selon ma part, très déplorable, parce que, comme on le dit toujours, tout reproche sur une mauvaise gouvernance est enraciné dans une mauvaise citoyenneté. Mais quand les citoyens se donnent par rapport à une situation donnée et essayent de sauver une cause gouvernementale, mais que l'apport du gouvernement n'est vraiment pas là-dedans, des fois ça démotive et ça nous permet de reculer. Mais on aura à prendre l'ampleur, on aura à prendre normalement la vision au début avec une certaine aisance, mais avec les manques de moyens, les manques d'accompagnement, la vision est totalement détruite en bout de chemin et une protection qu'on peut donner à notre mère nature avec une mission bien définie revient à être récalée en cours de chemin.
Et aujourd'hui, on en a parlé, de l'importance du développement et du traitement de ces déchets à travers le recyclage. Quel peut être aujourd'hui l'apport des technologies sur le front de la transformation de ces ordures?
Oui, l'apport des technologies sur le côté de la transformation de ces ordures. Déjà, je dois dire, il y a des broyeurs de végétaux et des broyeurs d'aliments en plastique, de plastique qui le transforment en granulats, qui sont déjà à la disposition dans des pays vraiment en voie de développement ou dans des pays en développement, bien sûr. Donc, si nous pourrions nous approvisionner de ces machines, ne serait-ce qu'à l'échelle étatique, genre dans les pays en voie de développement ou dans les pays non développés, nous pourrions, sur la base de ça, faire des transformations nationaux sans pour autant collecter ces déchets et les envoyer en Occident pour la transformation.
Alors,
donc, chaque pays produit ses déchets et chaque pays se permet de redonner une nouvelle vie à ces déchets pour une autre utilisation, sans pour autant polluer l'environnement.
Justement, Adem Kopomasi, vous voyagez souvent, vous allez souvent dans d'autres pays du continent, de notre continent. Est-ce qu'il y en a un qui vous a le plus marqué de par sa stratégie, voilà, de lutte aujourd'hui contre l'insalubrité, de par sa stratégie de recycler aujourd'hui ses déchets?
Je dois dire, pour ne citer que maintenant deux, j'en ai tout d'abord visité le Maroc. Et déjà, l'aéroport de Marrakech, vous pourriez constater déjà que les poubelles, ils sont normalement étiquetés. Chaque poubelle est étiquetée et tu dois savoir, quand tu t'approches de cette poubelle, que vraiment la poubelle là contient tel déchet et tu t'y fies en conséquence. Et pour une petite partie de ma vie faite au Canada, c'est la même chose qui se passe. Ils ont normalement un système de collecte des déchets, un système de tri des déchets qui est vraiment très professionnel, qui leur permet de ne pas mettre tous les déchets dans les mêmes paniers, mais de les trier pour vraiment en faire une utilisation propre à chaque déchet selon catégorie.
Mis à part le Canada, donc, si je vous comprends bien, selon vous, les pays africains, certains pays africains devraient s'inspirer de l'expérience marocaine en matière de gestion des déchets, c'est ça?
Effectivement.
D'accord. En tout cas, Edem Koumassi, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, l'échange a été très instructif. Merci.
Merci à vous aussi, monsieur.
Voilà, à présent, place à la deuxième partie de ce podcast. Green Tech, c'est tout de suite et c'est avec Tenon Koulibaly. Ce fils de la Côte d'Ivoire veut rendre les rues d'Abidjan plus accueillantes. Alors, il a, avec son équipe, mis au point Digital Smart Trash, une poubelle connectée qui facilite le tri sélectif des déchets. Bonjour Tenon Koulibaly, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Monsieur Pape, je vais bien, merci. J'espère que vous allez bien également. Et merci pour cette occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur votre chaîne et de présenter notre solution.
Alors, comment vous est venue, Tenon, l'idée de créer cette poubelle intelligente?
Nous sommes partis de la base qu'aujourd'hui, la technologie fait partie de notre quotidien. Et que, qu'on le veuille ou non, nous utilisons quotidiennement la technologie. Et également, nous avions de gros problèmes environnementaux qui, notamment, se matérialisaient par des poubelles qui sont pleines, qui ne sont pas collectées, par la multiplication des dépôts sauvages, en fait, dans nos villes. Donc, il fallait déjà voir la limite, en fait, de la méthode traditionnelle de collecte des déchets, sinon de la conteneurisation jusqu'à la collecte des déchets. Et c'est sur cette base-là que nous sommes allés et nous avons décidé de mettre en place des poubelles, en fait, qui nous permettraient de nous informer sur le niveau de remplissage des bacs. Donc, fini les dépôts sauvages, en fait, des déchets dus au fait que les bacs sont pleins et qu'ils ne sont pas collectés à temps. Et également, optimiser l'itinéraire de collecte des déchets de sorte à ce que, voilà, donc, la collecte traditionnelle qui est réputée pour être catastrophique en matière de gestion énergétique puisse désormais être efficiente. Voici autant de raisons qui nous ont poussé à mettre en place cette poubelle intelligente et ou si vous voulez connecter.
Cette poubelle, nous l'avons vu, associe technologie et protection de l'environnement. Vous collectez des données dans ces boîtes magiques. Qu'est-ce que vous faites des données collectées? En quoi elles vous sont utiles?
Et oui, nous collectons les données, justement à partir de ces boîtes magiques, comme vous les appelez. Oui, nous collectons des données et ces données-là sont mises à disposition naturellement, voilà, donc des collectivités locales, des municipalités et des autorités et même des entreprises. Parce que ces données-là nous informent sur les habitudes, par exemple, de consommation des populations, sur les quantités de déchets qui sont produites. Et cela a pour enjeu, sinon de permettre en fait à ces responsables d'entreprise ou à ces maires et à ces responsables de collectivités locales de mettre en amont en fait des politiques environnementales basées sur les habitudes de consommation, sur la quantité de déchets par exemple produites dans ces différentes localités ou dans ces différentes entreprises.
Et oui, des données collectées qui vous sont d'une grande importance. Alors, comment se passe, Tenon Koulibaly, la transformation des déchets collectés auprès des entreprises?
Est-ce qu'il faut dire la transformation des déchets aujourd'hui? Nous ne faisons pas la transformation à terme, c'est quelque chose que nous envisageons faire. Et nous avons même commencé à mettre en place une unité de transformation. Mais aujourd'hui, ce que nous faisons, lorsque nous collectons les déchets, nous les acheminons directement vers des structures qui ont pour coordonnées la transformation. Donc, chaque type de déchet, que ce soit le papier, le fer, le plastique ou l'aluminium, en tout cas, est acheminé vers des structures spécialisées dans la transformation de chaque chaque type de déchets. Donc, nous pouvons garantir aux entreprises, aux collectivités locales, aux municipalités et même à l'État, en fait, que les déchets qui sont collectés sont réellement transformés parce que ces partenaires à qui nous acheminons ces déchets-là ont pour obligation de nous fournir des rapports de transformation des matières résiduelles qui leur ont été apportées. Donc, voici comment se fait la transformation de ces déchets.
Aujourd'hui, on parle de plus en plus de smart city. Alors, sur le continent, à travers vos voyages, est-ce qu'il y a, disons, des villes, des pays dont vous vous êtes inspiré pour s'engager dans la lutte contre la pollution?
Aujourd'hui, il faut dire que j'ai été. Oui, on parle de plus en plus de smart city. Et effectivement, ce projet, il faut le dire honnêtement, a été inspiré en fait de modèles vus un peu ça et là. Bien entendu, nous avons apporté notre touche locale et la technologie. Mais le tri, c'est pas quelque chose qui voilà que nous créons. Le tri, voilà, existe dans pas mal de pays et notre expérience en fait à l'international nous a permis quand même de nous inspirer de modèles du tri et il fallait l'adapter en fait aux réalités ivoiriennes et voici comment est-ce que nous avons décidé d'y rajouter une technologie quand même qui se rapproche plus ou moins sinon qui tient compte en fait des réalités quotidiennes en fait des populations vivant sur le territoire ivoirien et globalement en fait dans la sous-région. Et oui, j'ai été inspiré également par des modèles, pour ne pas citer de pays, je dirais que le Maroc, j'ai vu un modèle qui m'a quand même inspiré au Maroc, et j'ai trouvé très intéressant, et nous avons eu à échanger avec une structure là-bas, et voici un peu, voilà, comment est-ce que, d'où nous est venue l'inspiration, et c'est une bonne chose de s'inspirer de modèles qui marchent et puis voilà de mettre en place des solutions qui puissent résoudre le quotidien de nos contemporains et garantir aux populations, sinon aux générations futures, un cadre de vie sain. Et j'invite tout le monde, en fait, pour terminer, à se mettre au tri parce que le tri, comme nous le disons chez nous, trier, c'est recycler la nature. Et naturellement garantir, pour ne pas me répéter, un avenir aux générations futures, un cadre sain et un avenir radieux aux générations futures, parlant d'environnement, bien entendu.
Tenon Koulibaly, merci d'avoir répondu à nos questions. La Côte d'Ivoire est fière de vous, l'Afrique aussi.
Merci, c'est à moi de vous remercier. C'est moi qui vous remercie pour l'occasion que vous nous avez donnée de nous exprimer. Merci à vous et à très bientôt.
Voilà qui referme ce numéro de Green Africa. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et de votre environnement. En plus d'être une urgence climatique, elle est aussi une urgence sociale.